Chapitre 34. Vaste projet de l'évêque de Chicago. Le 15 décembre 1850, je reçus la lettre suivante. Chicago, Illinois, 1er décembre 1850. Révérend M. Charles Chiniki, apôtre de la tempérance. Mon cher monsieur, quand je visitais le Canada l'automne dernier, je voulais vous voir et conférer avec vous sur une affaire importante. Mais vous étiez alors occupé à donner des missions de tempérance dans le diocèse de Boston et je n'avais pas le temps d'aller si loin pour vous rencontrer. Vous savez sans doute que le sol de l'Illinois et de toute la vallée du Mississippi est considéré comme un des plus fertiles de la Terre et que ces immenses régions de l'Ouest, qui ne sont encore à bien dire qu'une vaste solitude, sont appelées à devenir dans un avenir prochain le grenier des États-Unis, sinon du monde entier. Ceux qui seront les maîtres de ces magnifiques contrées en dirigeront les grandes destinées. Nous avons donc le devoir et l'intention d'assurer à notre Sainte Église la possession de ces immenses et riches territoires autant qu'il nous sera possible de le faire. Mais cette grande œuvre doit s'accomplir avec le moins de bruit possible, afin de ne pas éveiller les soupçons de l'ennemi. Rien d'ailleurs de plus facile que la réussite. Le flot d'émigration qui entraîne nos populations catholiques de l'Europe et du Canada vers les États-Unis ne fait que grossir tous les jours. Malheureusement, jusqu'à présent, nos émigrés se sont souvent jetés en aveugle parmi les populations protestantes qui les absorbent avec une effrayante rapidité et détruisent leur foi. Pourquoi ne dirigerions-nous pas nos émigrés catholiques vers ces vastes territoires de l'Illinois, du Missouri, de l'Iowa, du Kansas, etc. Aujourd'hui, les terres s'y donnent presque pour rien. Si nous réussissons, comme nous en avons toute espérance, notre chère et sainte Église y comptera bientôt ses fidèles par milliers. Soutenue par leur nombre, leur richesse et leur unité, elle régnera sans rival sur ces vastes et beaux pays. Rien ne pourra résister à sa puissance. Les protestants, toujours divisés entre eux, ne pourront jamais former un parti fort et puissant sans appeler à leur aide les catholiques. La balance du pouvoir penchera donc toujours aux États-Unis du côté des catholiques. Ainsi, tous les partis seront obligés de venir à nous s'ils veulent gouverner. Or, nous ne donnerons jamais nos voix qu'à celui des deux partis qui se montrera le plus sincèrement dévoué à l'honneur, aux intérêts et aux droits de l'Église. Par ce moyen, sans qu'on ose jamais le proclamer formellement, ce sera notre Sainte Église qui régnera de fait sur les États-Unis, comme elle est appelée par notre Seigneur Jésus-Christ à régner sur le monde entier. Si le courant qui entraîne aujourd'hui le peuple canadien vers les États-Unis n'est pas dirigé avec sagesse, ce peuple court le grand danger de tomber et de se perdre dans la boue du protestantisme. Consacrez donc le reste de vos jours à diriger les flots d'émigrants qui quittent la France, la Belgique et le Canada vers un seul point et vous vous trouverez bientôt à la tête d'un peuple catholique dont le nombre, la richesse et la puissance étonneront le monde. Le Seigneur a béni d'une manière bien remarquable les efforts que vous avez faits pour régénérer votre pays en établissant des sociétés de tempérance. Mais cette belle œuvre, qui vous avait été si providentiellement confiée, est terminée. Votre tâche est finie. Il ne vous reste plus rien à faire au Canada dans cette sphère. C'est en ce moment que Dieu semble vous appeler à une autre œuvre non moins digne de votre zèle. Nous avons déjà, à Bourbonnais Grove, un établissement de Canadiens très prospère, quoi qu'il ne soit qu'à son berceau. Venez m'aider, au moyen de nouveaux émigrants, à accroître ce petit noyau jusqu'à ce qu'il devienne un vrai peuple. Si vous entrez dans mes vues, je ne vous cache pas que j'aurai l'intention de prier notre Saint-Père le Pape de vous nommer mon coadjuteur et mon successeur dans l'épiscopat, car ma santé est trop faible pour me permettre encore bien longtemps de porter le pesant fardeau que la Providence a mis sur mes épaules. Veuillez examiner devant Dieu ce que je vous propose ici et me donner votre réponse. Soyez aussi assez bon pour n'en rien dire à personne avant que nous ayons commencé l'œuvre si grande, si belle, si sainte que je vous propose. Croyez-moi bien, votre tout dévoué, Louis-Olivier Van de Velde, évêque de Chicago. Je lui répondis le 20 décembre que les évêques de Boston, de Buffalo et de Détroit m'avaient déjà conseillé de diriger les émigrés canadiens vers les prairies de l'Ouest et que, comme lui, je pensais que c'était le meilleur moyen de les empêcher d'être pervertis par les protestants. Je lui dis que je considérerais comme un grand privilège de pouvoir consacrer le reste de mes jours à étendre le pouvoir et l'influence de notre Sainte Église aux États-Unis. J'ajoutais que j'espérais avoir l'occasion de lui présenter mes respects et d'entendre ses conseils lorsque j'irai dans le mois de juin visiter mes chers compatriotes émigrés à Bourbonnais. Qu'il serait alors temps de répondre à son appel lorsque j'aurais vu de mes yeux ces pays de l'Ouest dont il me disait de si grandes choses. Je terminai ma lettre en lui disant « Je prie respectueusement votre grandeur de ne plus penser à me faire nommer son coadjuteur et son successeur. Je me sens trop indigne d'une si haute dignité pour jamais l'accepter. D'ailleurs, j'ai déjà refusé deux fois cet honneur et je suis plus que jamais décidé à ne le jamais accepter. Que mes supérieurs me laissent, comme simple soldat, combattre pour l'amour de notre Sainte Église. Peut-être qu'avec la grâce de Dieu, je pourrai rendre aussi quelques services à la cause de la religion. » Vers le commencement de mai 1851, je me rendis à Chicago, où nous débarquâmes le 15 juin après avoir failli périr dans une affreuse tempête. Plusieurs des rues que nous traversâmes étaient presque impraticables. Des planches avaient été jetées, çà et là, pour empêcher d'enfoncer jusqu'aux genoux dans l'eau et le sable. Chicago était loin de donner alors l'idée de ce qu'il deviendrait. Cette ville n'avait alors guère plus de 30 000 habitants, tandis qu'elle en compte aujourd'hui plus de 600 000. Elle n'avait qu'une seule ligne de chemin de fer qui la reliait à Ottawa, longue seulement de 40 000, tandis qu'aujourd'hui, on ne compte pas moins de 700 trains qui arrivent et partent à tous les instants du jour et de la nuit dans toutes les directions des États-Unis. Il est probable qu'il s'y achète et s'y vend aujourd'hui plus de bois, de grains, de bœufs et de porcs dans une journée que dans toute l'année 1851. Lorsque j'entrai pour la première fois dans ce qu'on appelait le palais épiscopal, il était dans un tel état de dégradation et de délabrement que j'eus peine à en croire mes yeux. Le plancher de la salle à manger était couvert d'eau grâce à l'orage de la nuit précédente et ce fut presque dans un lac que je pris mon premier dîner dans cette résidence princière. Malgré cela, il y avait bien plus d'agréments dans la compagnie de l'aimable évêque Van de Velde que dans le palais de marbre blanc élevé par son hautain successeur, Oregon. Il y avait alors environ 200 familles canadiennes à Chicago, desservies par l'abbé Lebel, né comme moi à Kamouraska. Il me raconta sur l'immoralité et la dégradation du clergé de l'Illinois des choses qui dépassaient tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Je me sentis saisi d'une telle horreur à ces récits que ma première impulsion fut de m'éloigner sans bruit et de m'en retourner au Canada le jour même. Mais, après mûre réflexion, il me sembla que ces abominations mêmes me faisaient une loi de me consacrer au salut de tant d'âmes précieuses que l'ennemi allait assurément perdre si on les laissait sans protection entre les mains de pareils monstres. Je passai une semaine à Chicago. Tous les soirs, je prêchais aux Canadiens et aux Français qui encombraient la jolie petite église que M. Lebel leur avait bâtie et je passais une partie du jour à considérer avec l'évêque les meilleurs moments à employer pour conquérir à notre église la magnifique vallée du Mississippi qui comprenait les États de l'Illinois, Iowa, Missouri, Kansas, Minnesota. Il nous paraissait de plus en plus évident que notre chère église, une fois maîtresse des incalculables ressources de ces territoires, saurait bien se faire respecter et obéir par les États moins fortunés de l'Est. Mon enthousiasme était si grand que j'étais prêt à me sacrifier moi-même pour assurer le succès de ces vastes projets. Et je me sentais heureux de ce que le ciel m'ait choisi pour aider mes évêques dans une œuvre qui m'apparaissait si grande et si sainte. Il me fallut faire près de 3 jours de marche pour traverser les magnifiques prairies qui séparaient Chicago de Bourbonnais, but de mon voyage où je passais près de 3 semaines. Une partie de ce temps fut consacrée à prêcher et l'autre à parcourir le pays qui s'étend au sud et à l'ouest vers le Mississippi. Ce ne fut qu'après cette tournée que je compris la grande pensée de l'évêque et que je me décidai à laisser la belle position que j'avais au Canada pour consacrer le reste de mes jours à assurer à mon église la possession de ces riches contrées de l'Ouest. Je retournai à Chicago dans la seconde semaine de juillet et je promis à l'évêque de revenir le même automne pour me mettre à l'œuvre. Nous convîmes aussi d'écrire une lettre que nous publierons au Canada, en Belgique et en France pour montrer les avantages que les prairies de l'Ouest offraient à l'émigré. Il est bien probable que je n'aurais jamais publié cette lettre si j'avais prévu l'effet désastreux qu'elle faillit avoir sur les destinées du Canada. Les fermes perdirent bientôt plus de la moitié de leur valeur car une foule de gens voulurent vendre leurs terres pour émigrer dans l'Illinois. Le manque d'acheteurs empêcha seul le Canada de perdre plus de la moitié de ses habitants au bénéfice des États-Unis. Pendant que les uns m'exaltaient outre mesure, les autres étaient furieux contre moi et faisaient pleuvoir sur ma tête un déluge d'injures. Le jour qui suivit sa publication, j'étais allé à Québec pour présenter mes respectueux hommages aux évêques du Canada qui y tenaient leur concile provincial. Le premier évêque que je rencontrai fut Monseigneur de Charbonnel, évêque de Toronto, ex-sulpicien, qui avait été un de mes amis les plus dévoués lorsqu'il était au séminaire de Saint-Sulpice. En m'apercevant, il pressa mes deux mains dans les siennes en disant « Je viens de lire votre admirable lettre sur l'Illinois et sur l'émigration. Je n'ai jamais rien lu de si beau sur cette question. L'Esprit Saint vous en a visiblement inspiré toutes les lignes. J'en ai envoyé 6 exemplaires en France et en Belgique pour qu'ils y soient publiés. Cette lettre est appelée à faire un bien incalculable aux émigrés de ce pays comme à ceux du Canada en dirigeant leurs pas vers les régions où ils n'auront rien à craindre pour leur foi tout en étant certains d'y trouver un avenir de prospérité sans bornes pour leur famille. La postérité mettra votre nom parmi ceux des grands bienfaiteurs du pays. » Ces compliments, quoique peu mérités, me firent cependant plaisir, en confirmant l'espoir que j'avais que notre nouveau plan d'émigration allait étendre le pouvoir et l'influence de notre Église tout en rendant d'immenses services aux émigrés. Je remerciai l'évêque de sa bienveillante approbation et lui demandai sa bénédiction, puis je me dirigeai vers la chambre de Monseigneur Bourget, qui, comme les autres évêques, était en ce moment l'hôte de l'archevêque de Québec. Je le trouvai tenant à la main le journal « Les mélanges religieux » dans lequel il venait de lire ma lettre. Jamais Lyon ne lança des regards plus furieux sur celui qui voudrait lui arracher ses petits que l'évêque ne fit en me regardant. « Est-il possible, me dit-il avec indignation, que ce soit votre main qui ait écrit cette lettre perfide? Est-ce bien vous qui avez plongé ce poignard dans le sein du pays qui vous a donné tant de marques de sa confiance et de son affection? Ne croyez-vous pas que cette lettre va dépeupler nos plus belles paroisses? Quoique je ne m'attendisse pas à cette nouvelle tempête, j'eus le bonheur de garder mon sang-froid. Je répondis tranquillement. Votre grandeur s'est assurément méprise sur le sens de ma lettre. Elle croit y trouver des sentiments indignes d'un Canadien et d'un chrétien. Veuillez la lire de nouveau et vous verrez qu'il n'y a pas un mot qui ne vienne du plus pur patriotisme et du plus profond dévouement aux intérêts de l'Église. » La réponse acerbe que l'évêque donna à ses paroles respectueuses me montra qu'il valait mieux m'éloigner après lui avoir demandé sa bénédiction, qu'il me donna d'ailleurs très froidement.